Les nanotechnologies, on en entend beaucoup parler et ça se passe à Grenoble.
Bonjour et bienvenue sur Science Frisson, une émission Rance Inter en direct et en public. Nous sommes aujourd'hui à Fort-Calquier dans les studios d'une petite radio locale, Radio Zinzine, la radio...
Taquine.
Taquine, mais bien sûr la radio taquine. Dans le cadre d'un cycle de débats organisé par les amis littères, les amis d'ITER, pour parler de la science, du progrès et de tous ces grands projets qui, de Rhône-Alpes à PACA, dessinent l'avenir du Grand Sud-Est.
Oui, et ce n'est vraiment pas par hasard que nous allons parler ce soir de Grenoble. Grenoble, ville des Alpes, ville de l'innovation, au service de la science depuis toujours et aujourd'hui reconnue comme la référence européenne sur les nanotechnologies. Alain Bédoué,
Sophie Béchamel,
bonjour.
Eh bien, sans plus tarder, aujourd'hui, 5 invités, John Termos, Olivia L, Jean Destone, Jean-Louis Baudra et Marie-Vonne Boilatas qui devraient nous rejoindre sous peu. Bonjour.
Bonjour.
Eh bien, sans plus tarder, je vous présente. John Termos, vous êtes industriel, vous êtes un homme comblé, évidemment. Vous êtes directeur général de Soynic, une start-up du CEA spécialisée dans la mécatronique, l'optronique, la nanotronique et le gin tonic. je plaisante, bien sûr. Vous êtes diplômé de l'INPG en 1985. Vous êtes au cœur des réalités industrielles. Vous avez été rapidement responsable qualité chez Thomson, directeur du marketing chez Alcatel, expert en balistique chez Dassault Microsystèmes et plus récemment conseiller en développement durable chez ST Microelectronics. Vous avez 37 ans, comme je le disais, vous êtes, je le crois, un homme comblé. Cette année, votre start-up a enregistré un bénéfice record de 37 millions d'euros.
37,8 millions d'euros, s'il vous plaît.
Soyons précis sur les chiffres.
Merci John. Ce qui vous a permis d'ouvrir une nouvelle usine en Malaisie, un succès que vous racontez d'ailleurs très très bien hein, dans Nanotechnologie, Maxi Profit, Maxi Défi. Vous pratiquez quotidiennement l'éthique et l'écologie. Vous êtes président de Nanotechnologies sans frontières, une ONG qui vise à réduire la fracture numérique avec les pays sous-développés. Vous pratiquez le vélo en semaine, vous n'utilisez votre 4x4 que le week-end.
Bien, alors nous passons à vous, Olivia L. Bonjour. Vous êtes politologue, maître de conférences et directrice de l'Institut d'études économiques et politiques de Grenoble. Vous êtes spécialiste de la République et des systèmes démocratiques occidentaux, je crois. Vous vous intéressez depuis peu à l'articulation entre démocratie et technologie de pointe, n'est-ce pas ?
Exactement.
Alors, vous êtes grenobloise d'adoption. Vous êtes championne interrégionale du jeu de Go également, n'est-ce pas ? Alors, vous êtes très active dans la promotion de la démocratie participative à un niveau local, aux côtés de la mairie en place. En effet, vous animez diverses tables rondes et débats citoyens pour faire faciliter l'acceptation des nouvelles technologies dans la région. Vous avez écrit un livre qui commence à faire parler de lui, « Acceptabilité de science, des sciences ou science de l'acceptabilité » ou « Comment faire accepter l'inacceptable » aux éditions Machette.
Olivia, merci. Jean Destone, bonsoir, bonjour,
bonsoir.
On ne sait plus, vous êtes ingénieur de formation, vous avez travaillé au CEA Grenoble avant de fonder en 1986 la start-up Maurice, vous êtes engagé en politique, on le sait, au sein du Parti Socialiste, vous êtes actuellement adjoint à la ville de Grenoble, chargé de l'économie nouvelle et de la nouvelle économie.
Exact.
Vous avez déclaré récemment « Je ne comprends pas qu'on s'en prenne comme cela à Minatech alors que l'on fera des choses bien pires à Nanobio ». Vos ouvrages « L'importance est avancée »,« La métropole grenobloise, une étoile qui brille dans la nuit », un petit peu de poésie, « Plus de technologie pour plus d'écologie » aux éditions A. Bain Michel. J'en remercie.
Voilà, nous poursuivons avec donc notre invitée que nous attendons, hein, qui a eu un peu de retard avec son TGV, mais elle devrait bientôt nous rejoindre.
Souvent des problèmes de vent
oui,
avec le TGV.
Ces derniers temps,
ça,
oui, des retards. Alors, Marie von Boilatas, elle est ingénieure de formation et docteur en physique nucléaire. Elle est engagée en politique depuis 1995 dans la grande famille des Verts. Et on peut citer deux livres qu'elle a publiés, « Les nanos expliqués à ma fille » en 2003 aux éditions Maton, et puis « Plus petit, plus puissant, moins polluant, la transition verte » en 2005 aux éditions Puf Puf Puf.
Jean-Louis Baudra, bonjour, bonsoir. Bonjour. Vous avez été enseignant-chercheur à l'Institut National Polytechnique de Grenoble, spécialisé dans les micropuces dopées au bromure, je crois, de silicium.
C'est ça.
Silicium
c'est ça.
Actif, je crois d'ailleurs. Vous avez été un des premiers à vulgariser les nanos avec votre livre « Après moi, les nanos », réédité en 2006 chez L'Art Mutant.
Et préfacé par Claude Allègre.
Préfacé par Claude Allègre, ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Vous avez récemment quitté Grenoble, je crois, pour rejoindre un grand projet international, une véritable tour de Babel provençale, provençale même on pourrait dire, me permets, on est en province. J'ai nommé le programme ITER de Cadarache, dont vous nous parlerez au cours de l'émission.
Voilà, on y reviendra. Hein.
Oui, j'espère.
Le temps nous presse, commençons, hein, comme toujours à la radio, il faut commencer. Alors, entrons sans plus tarder dans le vif du sujet avec vous, Jean-Louis Baudra. Si vous le voulez bien, les nanotechnologies, qu'est-ce que c'est ? On entend parler du cheveu, mais qu'est-ce que ce cheveu ?
Oui, alors d'abord, le nanomètre, le scientifique que je suis peut déjà préciser, un nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres, c'est-à-dire le 10 millième de l'épaisseur d'un cheveu, vous l'avez bien dit. Les nanotechnologies, ce sont les technologies assez récentes qui nous permettent de manipuler la matière à l'échelle de l'atome, puisque le nanomètre, c'est l'échelle qui nous emmène au cœur de la matière, au cœur de l'atome.
Oui, alors Jean-Louis, j'interviens simplement, c'est vrai que tout ça peut paraître un peu complexe, alors finalement, on pourrait dire qu'avec les nanotechnologies, les scientifiques font un peu ce que pourrait faire un enfant avec un jeu de Lego.
Tout à fait,
voilà.
Très bonne image.
Mais dites-nous quand même, plus simplement, pourquoi parle-t-on de révolution industrielle à propos des nanotechnologies ?
Alors pour moi, la révolution, ce ne sont pas les nanotechnologies en elles-mêmes, ce sont ce qu'on appelle les NBIC. N pour nano, B pour biotech, biotechnologie, I pour informatique et C pour sciences cognitives. Les nanotechnologies, ça sert à quoi ? Des nouveaux matériaux et miniaturiser de manière vraiment incroyable ce qui existe déjà. Ensuite, on ajoute un peu d'informatique à ça. Ça donne des objets communicants, les objets intelligents, les étiquettes RFID. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus.
Excusez-moi.
Ah, John ?
Oui, Jean-Louis Baudra, vous êtes un scientifique respectable et j'apprécie beaucoup votre travail. Mais je pense que ce n'est pas comme cela qu'il faut présenter les nanotechnologies. D'abord, vous utilisez le terme de révolution. C'est un terme que je n'aime pas beaucoup, notamment pour ses connotations politiques. Je préfère le terme de rupture tranquille. Ce qu'il faut que les consommateurs comprennent, les auditeurs ce soir, c'est que grâce aux nanotechnologies, nous allons aller au maximum de la technologie pour une vie plus fonctionnelle, donc plus intense, donc plus heureuse. Et c'est quoi une vie heureuse aujourd'hui ? C'est à chaque problème de la vie trouver une solution. Alors, je vais prendre quelques exemples pour nos éditeurs. Les stations de ski. Le réchauffement climatique fait qu'il y a de moins en moins de neige. Résultat, on casse plus souvent ses skis. Eh bien, grâce aux nanomatériaux, nous allons faire des skis plus rigides, mais aussi plus légers. Elle est pas belle, la vie ?
Voilà qui ne manquera pas d'intéresser nos auditeurs, nos
mais
auditrices.
Oui. Mais je prends notre exemple, les treks au Maroc. Vous partez en trek au Maroc, avec votre iPod, et vous avez pris l'intégrale de Michel Sardou. Il n'y a plus de place pour mettre l'intégrale de Pascal Obispo. Eh bien, avec les nanotechnologies, nous allons faire des iPods plus petits, avec plus de mémoire. Et moi, je vous le dis, les nanotechnologies, c'est Pascal Obispo et Michel Sardou sur le même iPod.
Oh, super. Des belles promesses.
C'est vrai.
Oui, et enfin, j'ajouterai un dernier exemple. Les lunettes de vue. Comme moi, qui porte des lunettes actuellement, je nettoie mes lunettes régulièrement. Et nos chercheurs de ma start-up ont calculé que nous passons 3 minutes par jour à nettoyer nos lunettes.
3 minutes, c'est colossal.
Tout à fait, et en une année, cela représente quand même une journée entière à nettoyer ses lunettes.
C'est beaucoup trop. Beaucoup trop.
C'est un problème, et nous avons trouvé la solution. Grâce au verre auto-nettoyant. Ce sont des matériaux nanomatériaux qui permettent de nettoyer tout seul ses lunettes. On gagne donc une journée par an, une journée pour travailler plus, pour gagner plus. Et avec ce gain supplémentaire, on peut même s'offrir ces lunettes de soleil que nous avons également fabriquées avec notre start-up, qui sont très très appropriées quand on habite dans le sud de la France. Elle est pas belle la vie ?
Oui, elle a l'air pleine de promesses en tout cas.
Mais John, peut-être, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est pour vous le petit plus de ces nanotechnologies ?
Écoutez, Alain Bédouet, pour moi le plus des nanotechnologies, ce sont les nanopuces. Et ce n'est pas pour rien que ST Microelectronics et IBM ont construit à Grenoble Crolles 2 et Crolles 3, les plus grandes usines de puces.
Oui, je vous interromps, John Termos, simplement pour les auditeurs, les auditrices qui ne connaissent peut-être pas bien la région grenobloise. Crolles 2, donc, c'est un pôle de recherche et de développement sur les microtechnologies qui est situé à quelques kilomètres de Grenoble. C'est un travail de partenariat entre différentes entreprises, des entreprises toutes très à la pointe, dont ST Microelectronics. Hein. Et Crolles 2, c'est un budget surtout de 2,2 milliards d'euros d'investissement. C'est colossal.
C'est colossal et croyez-moi, Madame Béchamel, actuellement on parle des noix de Grenoble. Eh bien dans 5 ans, nous parlerons des nanopuces de Grenoble.
Je songe même à déposer un label AOC, Nanois de Grenoble.
Jean Destone,
hein, on vous reconnaît bien là.
Alors écoutez, pour vous aujourd'hui, j'ai amené des nanopuces. Dans une petite boîte. Hein.
Ah, alors ce n'est pas très radiophonique, mais John Termos sort une petite boîte et oui, ce sont des nanopuces qu'elle contient.
Alors il faut bien comprendre que derrière ce petit élément électronique se trouve la réponse aux grands défis de l'humanité. Prenons l'exemple de la vache folle et de la grippe aviaire. Le problème, c'est quoi ? C'est la traçabilité. Lorsque nous aurons mis dans chaque animal une nanopuce permettant de tracer de la fourche à la fourchette notre alimentation, eh bien nous serons, oui je vous le dis, nous serons bientôt le nom de notre entrecôte. Par ailleurs, ce nanopuce nous permet également de tracer votre animal domestique, votre Yuki. Ainsi, lorsque votre Yuki part en balade, vous pouvez sur votre écran voir ses déplacements. Alors, on a aussi une option pour les enfants, les jeunes enfants. Vraiment, on peut dire qu'on apporte des solutions.
John, quand même, j'aimerais revenir sur un point. On entend parfois dire qu'il y aurait un accord entre Minatech et la DGA, la Délégation Générale pour l'Armement. Mais qu'en est-il ?
Il me semblait que nous avions prévu de ne pas parler de ce sujet-là dans l'émission. Non,
mais écoutez, brièvement, John. Hein,
oui, mais je vais être transparent. Je n'ai pas honte de dire que ma start-up est financée à 30% par la Délégation Générale à l'Armement. Et là encore, il faut bien comprendre que nous sommes face à un problème en France, qui est le problème de l'armement, et que les nanotechnologies apportent une solution. Vous savez, monsieur Bédouet, la France est le troisième exportateur d'armes au monde. La concurrence est impitoyable. Notamment à cause de quoi ? De la Chine. La Chine ! Alors si nous voulons avoir quelques missiles d'avance, des drones d'avance, du matériel d'avance, il nous faut des nanotechnologies. Vous savez, également, à force de vendre des armes à des pays étrangers, il arrive que certains gouvernements aient la tentation de les utiliser pour menacer le territoire national français. Par exemple, ce qui s'est passé en février dernier au Tchad. Alors, il faut bien voir que là aussi, il faut que notre armée puisse être en supériorité numérique et militaire. Il nous faut donc des drones, il nous faut des missiles intelligents, il nous faut des exocuirasses. Et voilà le plus des nanotechnologies aujourd'hui.
Alors, vous citez beaucoup de noms comme ça. Je me tourne vers vous, Jean-Louis Baudret. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous
bien sûr
définir certains concepts ?
Bien sûr, je ne suis pas un spécialiste des questions militaires, mais on peut redéfinir. Bon, missile intelligent, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. On en a beaucoup utilisé ces dernières années. Des exocuirasses, les lecteurs de bandes dessinées peut-être connaissent ces espèces d'armures pour les soldats du futur, un peu, qui les rendent plus forts, plus autonomes, plus puissants. Un drone, qu'est-ce que c'est un petit avion sans pilote,
très utilisé.
Alors, très utilisé par Israël, par la police nationale actuellement, un drone qui s'appelle Elsa, qui sert à surveiller les quartiers sensibles, les émeutes, mais aussi les marées noires, les stades de football. Ça, c'est Elsa. Il y a aussi le drone CPX-4. J'en parle un peu parce que ce sont mes propres élèves de l'INPG qui l'ont développé, qui ont eu un prix pour ça. C'est un petit drone qui, lui, est repliable dans le sac du fantassin. Donc, le fantassin du futur va pouvoir le déplier à tout moment de son sac à dos pour aller prendre des images et explorer, finalement, les zones hostiles urbaines qui l'entourent, par exemple. Voilà, des applications
merci,
intéressantes.
John, peut-être, sur ces applications.
Oui, écoutez, là, je crois qu'on a atteint un point très, très, très important des nanotechnologies. Vous savez, on entend dire que les nanotechnologies apportent des outils sécuritaires. Moi, je parlerais plutôt d'outils de liberté. Pourquoi des outils de liberté? Parce que lorsque dans chaque bureau de poste, lorsque dans chaque administration, à chaque caisse de magasin, il faudra un pass biométrique. Lorsque dans chaque rue, il y aura une vidéosurveillance intelligente qui permettra de repérer les visages et les comportements à risque, eh bien quand nous aurons tout cela, croyez-moi, nous aurons résolu les problèmes de l'immigration clandestine, de l'insécurité, de l'indélinquance, de l'agitation politique et même des grèves. Qui plus est, c'est un marché colossal et il faut bien voir que dans un contexte de crise, c'est très important.
Ah bon,
une autre application auquel je songe là, c'est la boue intelligente. La boue intelligente, c'est une substance à base de nanoparticules qu'on peut déposer autour de sites sensibles, qui a une signature spectrographique assez particulière. Donc, vous interrogez des suspects et s'ils ont des traces de cette boue, de cette poussière sur eux, vous savez qu'ils ont été à cet endroit-là. Donc, ça permet de faciliter le travail de la police.
Oui, là d'ailleurs, Jean-Louis Baudra, votre explication est tout à fait intéressante, mais
John
moi je parle plutôt de poudre micronique.
C'est vrai.
Il faut bien voir, là une fois de plus, que la traçabilité, c'est la sécurité, c'est donc la liberté. Mais techniquement, je vous promets que nous irons encore plus loin, et nous allons bientôt supprimer l'insécurité à la source.
À la source, John, là vous allez...
Non, je vais loin.
Je pense que John veut parler des neurosciences.
Jean-Louis Baudra,
les neurosciences, hein, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, les sciences cognitives, c'est l'ultime frontière de la connaissance scientifique. Pour moi, c'est le cerveau humain. Et on a des premières applications permises par les par la convergence entre les nanosciences et les neurosciences. Par exemple, des micro-électrodes qui permettent, par des stimulations dans des zones très précises du cerveau, déjà chez des rats, en laboratoire, de prévenir des comportements boulimiques. Donc, pourquoi pas, finalement, dans le futur, prévenir, avant même qu'ils apparaissent, des comportements agressifs, hein, donc supprimer la violence à sa source. Mais c'est aussi des nouvelles générations de psychotropes à base de nanoparticules, ou encore l'IRM fonctionnel, c'est-à-dire l'IRM qui est utilisé actuellement dans les hôpitaux pour les cancers, qui permet de suivre le cheminement de la pensée de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus précise, donc de comprendre beaucoup mieux le fonctionnement du cerveau humain.
Ça a l'air très intéressant.
Voilà. Passionnant.
En plein dans le domaine de la santé, Sophie.
Voilà, j'en profite. On aborde le domaine de la santé. Nous recevons donc de nombreuses questions concernant ce domaine sur le site de l'émission. Hein. Donc, je rappelle science-frisson.com. Hein. Vous pouvez nous envoyer vos questions. Je citerai Christelle à Florac, en Lozère, tout près d'ici, je crois. Est-il vrai que les nouvelles technologies vont permettre de guérir du cancer, de l'épilepsie, du handicap? Voilà une vraie question.
Évidemment, de grands espoirs, hein, je crois, ce côté. Mais ces espoirs, finalement, sont-ils justifiés? Quelle application médicale peut-on en espérer? Que peut-on en attendre?
Alors là, écoutez, je prends la parole parce que je crois qu'on atteint un point essentiel du débat aujourd'hui. Et d'ailleurs, le slogan de ma start-up, c'est Nanolife is Maxilife. Pourquoi? Parce que nous avons là la réponse ultime aux détracteurs de la société industrielle. Ceux qui prônent la décroissance, ceux qui dénoncent la pollution, les cancers, Parkinson, les pesticides. Bon, j'admets qu'il y a encore quelques petits problèmes avec la société actuelle.
Oui, tout de même.
C'est vrai. Mais vous me dites cancer. Et moi je vous réponds nanomissile. Des nanomissiles qui iront détruire les tumeurs dès leur apparition dans votre organisme. Vous me dites pollution. Eh bien moi je vous réponds biocapteur, nanobiocapteur. Parce que pour combattre la pollution, il faut d'abord la détecter. Et lorsque nous aurons mis des biocapteurs à chaque pot d'échappement, près de chaque landau, nous pourrons voir exactement où elle se trouve. Vous me dites Parkinson. Je vous réponds nanobiocapteur. Pour détecter en temps réel l'apparition de votre maladie. Bon, alors tout cela a un coût, certes, mais il va falloir travailler plus pour gagner plus, pour vivre plus longtemps.
Oui, d'ailleurs, vivre plus longtemps, c'est une vraie préoccupation d'actualité. On voit que les industriels s'en saisissent, avec vous, John Termos, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on nous promet désormais de vivre, non seulement de vivre plus longtemps, mais également de vivre sans mourir, ce qui est quand même intéressant.
C'est intéressant, oui, bien sûr.
Et alors,
Jean-Louis Baudrat.
J'avais envie de rebondir un peu sur ces biotechnologies. La convergence, une fois de plus, des biotechnologies avec les nanotechnologies permet de faire parler finalement deux mondes qui, pour l'instant, ne se parlaient pas. Le monde vivant, le monde de la machine. Donc, il y a aussi toutes les applications à base d'implants, à base de prothèses qui sont rendues possibles par cette convergence, qui sont, du coup, pour le coup, assez révolutionnaires. J'ose vous le prédire, demain, Robocop et Terminator seront dans nos rues.
Ça fait rêver.
Quel rebond, Jean-Louis, quel rebond en avant, je dirais même. Hein.
Bon, alors, je poursuis toujours de nombreux mails qui arrivent et on a aussi de nombreuses inquiétudes sur la toxicité des nanoparticules, là donc dans les questions qui nous arrivent sur le site de l'émission. Je citerai simplement Camille à Maubeuge qui nous écrit « J'ai appris qu'il y aurait des nanoparticules dans les produits de beauté. Y a-t-il des risques pour la santé ? Et si oui, pouvez-vous me conseiller un antiride qui n'en contienne pas ?» Jean-Louis Baudrat, pouvez-vous nous éclairer là-dessus ?
Alors, heureusement, je n'utilise pas encore d'antirides. Non, par contre, sur les risques des nanoparticules, une question effectivement classique qui revient tout le temps. Bon, soyons clairs. Le scientifique que je suis peut vous dire que dans l'état actuel des connaissances, rien ne prouve que les nanoparticules ne présentent aucun danger. Le moindre danger, vous m'auriez compris.
Nos auditeurs auront compris.
Oui, bien sûr, oui.
Évidemment, donc il y a beaucoup de peur, vous savez, beaucoup d'irrationalité dans ces craintes très virtuelles finalement, alors qu'il y a tant d'autres pollutions bien réelles, hein, les décharges, les crottes de chiens, etc., que justement les nanotech vont permettre d'éliminer. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Il faut avancer, et je pense que pour ça, il faut de la pédagogie, il faut savoir l'expliquer aux gens.
John Termos ?
Oui, toxicité. Dans ma start-up, nous avons souvent des critiques. On nous reproche de faire des déchets électroniques toxiques. Alors moi, je réponds que les nanotechnologies sont la réponse au problème des déchets électroniques. Pourquoi ? Mais prenez votre téléphone portable d'il y a 10 ans. C'était un gros, on appelait même ça un frigo, d'ailleurs. Eh bien, maintenant, ils sont tout petits. Ils sont plus nanotechnologiques. Plus petits, donc moins de déchets. Donc moins de pollution toxique. Et puis, il faut savoir que toute technologie est dangereuse, comme la montagne est dangereuse.
Mais comme elle est belle aussi.
C'est vrai, c'est vrai.
Jean, toujours la poésie. Hein. John, peut-être un dernier mot sur les promesses de ces nouvelles technologies que peut-on imaginer pour l'avenir ?
Écoutez, Alain Bédoué, déjà je crois qu'il est important de repréciser la distinction entre la science et l'industrie. Jean-Louis Baudrat, ici, est un scientifique. Son devoir est d'explorer le réel. Et lorsqu'on explore le réel, on découvre des applications qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Par exemple, avec un couteau, on peut tartiner du caviar ou assassiner un syndicaliste. Mais nous, industriels, nous sommes là pour donner que le meilleur au consommateur. Et que veut le consommateur aujourd'hui ? Il veut du high-tech, éthique, écologique et équitable. Alors, pour vous aujourd'hui, je vais prendre trois engagements au nom de ma start-up Soynic.
Ah, nous vous écoutons.
Oui, un premier engagement éthique. Je m'engage solennellement à ce que 1% des bénéfices de ma start-up aillent à l'association Nanotechnologie Sans Frontières. Je crois que c'est un engagement important. Merci.
Bravo,
merci.
Bravo.
Un engagement équitable aussi. Je m'engage à ce que les emballages de mes nanopuces soit fabriqué sous le label Max Havelaar au Costa Rica. Voilà.
Bravo.
Et enfin, un engagement écologique, mes nanopuces seront carbone compensées. C'est-à-dire que pour chaque litre d'effluent toxique rejeté dans l'Isère, nous planterons 5 arbres au Burkina Faso. Voilà, je vous remercie.
Bravo.
Merci pour ces engagements, mais finalement, je crois qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à percevoir avec les nanotechnologies. Je suis chez moi, je me lève demain, mais qu'est-ce qui a changé ?
J'ai envie de vous dire, Alain...
Jean-Louis Baudrat.
Tout a changé. Tout a changé, déjà, parce que vous vivez, vous vous réveillez dans une maison intelligente. C'est ça aussi les applications des nanotech, la domotique. Tous les objets qui vous entourent sont à votre écoute et s'adaptent en permanence à vous, à vos humeurs. Un exemple parmi tant d'autres, votre frigo détecte que les yaourts qu'il contient sont bientôt périmés, il les commande pour vous sur Internet. La musique s'adapte à votre humeur, à votre envie, au jour de la semaine. Les publicités s'adaptent à vous dans la rue, votre t-shirt change de couleur. Voilà, donc un monde un peu magique finalement que nous prédisent les nanos. J'ai envie de dire aussi que, pour revenir sur cette analogie entre l'homme et la machine, dans l'homme, des objets lui rendront la vie meilleure et plus facile, et autour de lui, les objets seront plus humains.
Merci. Alors, Jean-Louis Baudrat, bon, vous nous parlez de ce monde de demain qui nous attend, mais ce que vous nous cachez, c'est que nombre de ces objets existent déjà.
Bien sûr,
hein, donc
bien
demain,
sûr,
c'est
sûr.
Un peu aujourd'hui. Hein. Alors, moi, j'ai surfé pour vous sur Internet et j'ai trouvé plusieurs, on pourrait dire, des idées cadeaux, finalement. Hein. J'aime bien toujours faire une petite rubrique. Alors, bon, par exemple, surfer sur le net ou chatter tout en surveillant votre ratatouille, eh bien, c'est possible grâce au frigo Screen Fridge Electrolux. Donc, vous avez évoqué le frigo. Eh bien, il s'agit du premier frigo intelligent équipé d'un accès à Internet. Bon, pour la modique somme de 7 499 €, bon, c'est encore un petit peu cher, mais par exemple, elle tond le gazon mieux que vous, ne se fatigue jamais et vous laisse profiter de votre temps libre. C'est la tondeuse robot Ambrogio. Alors, démarrez-la en mars, arrêtez-la en octobre. Entre-temps, rien à faire, voilà. Alors, plusieurs modèles avec des prix allant de 1000 à 3000 euros, ça devient tout à fait accessible. Et enfin, le réveil Axbo. Donc, le réveil Axbo, c'est très particulier, c'est un petit bracelet hein, que qu'on se met au poignet qui calcule vos pulsations cardiaques et qui vous réveille au meilleur moment de votre cycle de sommeil. Donc, fini les réveils difficiles pour seulement 199 €.
Alors là, c'est tout à fait abordable.
Voilà. Bien, je crois qu'on va se faire une petite pause, simplement pour illustrer nos propos. Nous vous proposons un petit reportage Rance Inter sur la qualité de la vie dans l'agglomération grenobloise. Éric Durand s'y est rendu pour nous.
Merci.
21%, c'est la proportion de cadres à Grenoble. Beaucoup sont ingénieurs et construisent la Silicon Valley de l'Europe. Attirés par les universités de la capitale dauphinoise, ils en font aujourd'hui la croissance. Mais qui sont ces jeunes actifs? Rencontre avec la jeunesse qui gagne. Lui, c'est Fabien, ingénieur recherche et développement à Soynik. Elle, c'est Émilie, doctorante en physique des fluides au commissariat à l'énergie atomique.
Bonjour.
Fabien et Émilie, vous venez souvent ici?
Moi, je viens à peu près 2-3 fois par semaine, soit juste randonnée, soit un petit jogging pour m'aérer et puis arriver bien frais au boulot.
Et je viens quasiment tous les week-ends. En fait, je fais beaucoup de randonnées, un peu de ski aussi en hiver. C'est vrai que ici à Grenoble, il y a les montagnes tout autour. C'est vraiment un cadre exceptionnel. C'est dommage de ne pas en profiter. Et puis, avec tout le stress qu'on accumule la semaine au travail, c'est bien de pouvoir décompresser le week-end.
Et vous travaillez dans quoi, plus précisément ?
Alors moi dans ma boîte, il y a deux choses. D'une part, on travaille sur des microtechnologies qui servent sur des panneaux solaires, sur des piles à combustible, donc pas mal d'applications, développement durable, économie d'énergie. Et puis on a une branche un peu plus logicielle, sur des logiciels de reconnaissance de visage et de silhouette derrière des caméras de vidéosurveillance. Voilà, on a aussi 2-3 contrats un peu avec l'armée sur de la miniaturisation, des drones, des choses comme ça. Donc là, on est vraiment sur le côté lutte contre l'insécurité, délinquance urbaine et terrorisme. Et c'est vraiment, Grenoble pour ça, c'est très adapté puisque c'est une ville pilote qui joue vachement la carte vidéosurveillance. Il y a des expériences pilotes à la Villeneuve, par exemple. Donc ma boîte, on est en plein sur ce créneau-là et voilà, ça marche bien, quoi.
Et vous, Émilie ?
Alors, je suis chercheuse au CEA, donc... Mes recherches sont utilisées pour sécuriser les centrales, améliorer les installations, tout ce qui est normes de sécurité. Bon, c'est un peu compliqué, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais par exemple, en ce moment, je travaille sur les circuits de refroidissement d'eau, donc pour améliorer les installations. Donc voilà, c'est mon travail.
Et alors, que pensez-vous des écologistes qui disent tout le temps que le nucléaire, c'est dangereux ?
Oh bah c'est bien simple, je crois que en ce moment, il faut être lucide, il faut être réaliste. De toute façon, on a un tel besoin d'énergie... aujourd'hui, qui en plus ça va aller en augmentant, donc il faut bien trouver une solution à ce problème, surtout que le pétrole c'est bientôt fini, et je crois que le nucléaire c'est vraiment l'énergie propre pour demain, pour le futur.
Et alors, en ce qui concerne le traitement des déchets ?
Je crois que l'enfouissement c'est une bonne solution, on a trouvé quelque chose là, bon après il faut, bien sûr il faudrait améliorer tout ça, mais il y a des recherches qui sont en cours et je pense que d'ici quelques années on aura trouvé la solution pour les rendre inoffensifs, et puis il faut avoir confiance en la science, c'est grâce à elle qu'on vit si bien aujourd'hui.
Très bien, très bien. Et alors aujourd'hui on se trouve en haut du Saint-Thénard, alors qu'est-ce qu'on peut voir en bas ?
Alors en bas, c'est le début de la vallée du Grésivaudan qui va de Grenoble à Chambéry là-bas derrière. Moi je bosse sur le site de Kroll qu'on ne peut pas voir qui est plus loin, où il y a ST Microelectronics. Et en fait, toute cette vallée, c'est un peu la actuelle ou future Silicon Valley à la française. Il y a plein de boîtes de haute technologie qui travaillent sur le silicium, sur les puces, etc. Sinon, qu'est-ce qu'on a ? On a Champs-Rousses, station de ski en face. Et puis, juste en dessous, on a Mélan, une des banlieues les plus sympas pour habiter à Grenoble. On voit, il y a plein de piscines, des belles villas, de la verdure. Donc, voilà, un endroit sympa pour habiter.
Et vous, vous avez envie d'une piscine ?
Alors, une piscine, moi, non, peut-être pas tout de suite. Moi, je suis plus sur des... Bon, il faut choisir, hein, je suis bien payé, mais quand même, faut faire des choix. Et moi, je suis plus sur le planeur, le parapente, le matos de glisse, ça coûte quand même déjà bien cher. J'aime bien faire des treks aussi, pas mal. Je pars pas mal dans le désert et au Népal. Du coup, bah, pour l'instant, c'est pas trop la piscine, mais pourquoi pas plus tard, ouais.
Et alors, travailler plus pour gagner plus, c'est votre devise, Émilie ?
Non, je crois que le plus important vraiment c'est d'aimer ce qu'on fait, il faut s'éclater dans son boulot, puis le matin il faut partir heureux et ça c'est important.
Et finalement, qu'est-ce qui vous plaît le plus à Grenoble ?
Moi c'est, je crois que c'est la montagne tout près de la ville comme ça, voilà, de pouvoir venir ici. D'ailleurs dans une heure, faudra qu'on y aille parce que dans une heure il faut que je fasse sur l'autoroute là pour aller bosser.
Et je crois aussi que c'est une ville très dynamique, très très jeune. Il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de jeunes ingénieurs et ça crée une dynamique qui est quand même exceptionnelle. Et puis c'est une ville qui est au cœur de l'Europe, donc c'est vraiment tourné vers l'international. Et à l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir être mobile pour avancer dans le boulot, quoi. Donc ça, c'est important aussi.
On sent que ça bouge, quoi. C'est, voilà, peut-être les JO en 2018, c'est agréable de se sentir dans une ville qui, où il se passe des choses, qui est pilote sur plein de choses, qui bouge, qui est internationale, ouais. Et une ville de scientifiques, d'ingénieurs, il y a une super ambiance, vraiment.
Un esprit sain dans un corps sain, telle pourrait être leur devise. Leur prochain challenge, pour lui, fonder une famille, pour elle, monter sa start-up. Au cœur de l'Europe, au pied des pistes, ils ont vraiment toutes les cartes en main pour réussir.
Eh bien, nous reprenons l'émission, vous êtes toujours sur Science Frisson, en direct et sans public, des studios de Radio Zinzine à Fort-Calquier. Nous sommes avec nos invités, John Termos, Olivia L., Jean Destone, Jean-Louis Baudra et Marie-Yvonne Boilatas, qui ne devraient plus tarder maintenant.
Oui, elle ne devrait plus tarder. Bien, alors poursuivons, nous parlions des nanotechnologies. Alors, les nanotechnologies, ce n'est pas seulement des innovations attrayantes comme on a pu les citer, c'est aussi un véritable marché économique. Le gouvernement américain prévoit pour 2010... 350 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel sur le secteur des biens d'équipement, 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel sur le secteur de l'électronique, 180 milliards de dollars sur la chimie ou encore 70 milliards de dollars sur l'aérospatiale. Des chiffres colossaux. Alors, parlons de Grenoble. Des millions d'euros ont déjà été investis dans les nanotechnologies. On peut se demander pourquoi.
Je me tourne vers vous, Jean Destone. En tant qu'élu à la ville de Grenoble, à Grenoble justement, des millions d'euros ont déjà été investis dans les nanos. On peut se demander pourquoi.
Bien écoutez, monsieur Bédoué, vous savez, à la ville de Grenoble, nous avons une devise. L'emploi, c'est la première des solidarités. Or, les nouvelles technologies, ce sont quoi ? C'est de l'emploi. Donc les nouvelles technologies, c'est la première des solidarités. Voilà pourquoi les collectivités locales se devaient de soutenir fermement toutes les initiatives dans ce domaine pour faire face à la crise qui fait que tout un tas d'activités disparaissent de nos pays, hein, le petit artisanat, l'agriculture, les usines polluantes. Et donc face à ça, il faut savoir penser à l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi ? Ce sont les nouvelles technologies. Voilà pourquoi je suis fier que dans ma ville, nous avons le plus fort taux d'ingénieurs en France. Voilà pourquoi aussi je suis fier que nous avons le deuxième plus fort taux de cadres supérieurs après Paris en France.
Ah, mais je crois que Marie von Boilatas entre dans les studios. Oui, c'est elle. Eh bien, entrez, bonjour.
Bonjour, entrez, hein. Bienvenue.
Installez-vous.
Bon, oui, bonjour, excusez-moi. Ce TGV a pris du retard, on n'a pas vraiment voulu nous expliquer pourquoi. Et après, hop, j'ai sauté dans le TGV à Aix et bon, voilà, c'est routinier.
C'est pas grave. Ça apprend toujours. Le plus important, c'est que vous soyez là parmi nous aujourd'hui.
Je me déshabille.
Oui, oui, allez-y, installez-vous, nous poursuivons. Hein.
Alors, bon, poursuivons. Olivia L., en tant que politologue, on entend parler de modèle grenoblois, de culture à la grenobloise, mais de quoi s'agit-il ?
Oui, bonsoir. Grenoble, ce ne sont pas seulement des laboratoires dans la ville, c'est un laboratoire à l'échelle d'une ville. Une ville où l'on expérimente chaque jour la mixité sociale, la tolérance, l'ouverture, la consultation citoyenne, la démocratie participative, des politiques culturelles de qualité, du théâtre, du cinéma. Une personne sur cinq travaille dans l'enseignement supérieur et la recherche, et ça se voit. Et je vais vous dire, la recette de la réussite à la grenobloise, c'est la synergie, la collusion entre les différents acteurs sociétaux. Le monde universitaire, le monde de la recherche scientifique, politique, culturelle, industrielle et militaire. Vous savez, entre ces différents acteurs, il y a des liens si forts qu'ils forment un maillage solidaire et dynamique, que l'Europe entière nous envie.
Effectivement, ça fait envie. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus d'exemples sur comment fonctionne un peu tout ce petit monde ?
Oui, bien sûr. Les maires sont issus de, par exemple, les maires de Grenoble sont issus de la grande famille du nucléaire. Les chercheurs fondent leurs entreprises, leurs start-up, et les entreprises sont financées par les collectivités locales. Tout est lié. Un dernier exemple, si vous voulez.
Oui.
À Grenoble, vous savez, nous avons arrêté très vite les transferts de technologies. Vous savez, les transferts de connaissances d'un laboratoire de recherche public vers des entreprises privées. Oh, c'est obsolète. Les recherches, maintenant, se font en amont et en commun. Vous savez, nous, à Grenoble, nous avons tous été vaccinés à la high-tech. Ça permet d'avancer plus vite et éviter de se poser des questions métaphysiques.
Merci, Olivia L. Jean Destone ?
Je vais rebondir et expliciter un peu plus cette fameuse liaison université-recherche-industrie que le monde entier nous envie. Voilà, elle part d'un constat bien simple. C'est qu'il faut que les entreprises ne délocalisent pas. Et pour qu'elles ne délocalisent pas, il faut qu'elles fassent du profit. Pour qu'elles fassent du profit, il faut que les collectivités locales leur donnent de l'argent. Voilà pourquoi tout le monde travaille ensemble à Grenoble et que ça marche. Voilà, c'est ça la culture grenobloise. On l'appelle la culture du tous ensemble, ouais, ouais. Ouais.
D'accord, on sent effectivement
en cœur, hein, en cœur, hein.
Vous êtes ensemble. Bon, j'en profite, nous avons toujours de nombreux mails qui arrivent sur le site de l'émission. On sent que c'est un sujet qui intéresse. Par exemple, je voudrais citer deux mails. Hein. Par exemple, on a Nicolas à Toulouse qui se dit effrayé par l'ouverture des marchés à la Chine et à l'Inde. Et il demande comment la France se situe-t-elle dans ce marché face à la concurrence ? Ou encore une question de Samira à Paris qui demande la France est-elle à la hauteur des espoirs placés en elle avec la course aux nouvelles technologies ? Et qu'en est-il de la crise ? Voilà, Olivia L., peut-être, en tant que politologue, que pouvez-vous répondre ?
Vous savez, nous vivons dans un monde de concurrence. Et c'est une personne habituée des relations économiques internationales qui vous parle. L'économie, c'est la guerre. Il faut toujours aller de l'avant, il faut toujours aller plus vite si l'on veut garder et optimiser notre place dans le top 10 au niveau mondial. On dit que c'est la crise ? Eh bien justement, il faut y aller, monter au créneau, ne pas se laisser abattre. Parce que là, vous savez là, nous sommes en concurrence directe avec les États-Unis.
La Chine !
Le Japon !
L'Inde !
Le Brésil ! La Géorgie ! Le Botswana !
Sao Tomé et Principe !
Le Suriname !
Oui bon, d'accord, on aura compris.
Jean Destone.
Voilà, je rajouterais même que ce constat de concurrence internationale apporte un peu de nano à notre moulin de développement technologique. Car en fait, certaines voix discordantes prétendent un peu vite que ces nouvelles technologies ne serviraient à rien ou seraient dangereuses. Or moi, je dis que même si elles ne servent à rien, il faudrait quand même les développer. Parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, ce seront les autres. Alors quitte à ce que ça ne serve à rien, autant être les premiers à le faire.
Merci. Bien, alors...
Poursuivons. Hein, juste
oui,
pour que,
bon, Alain
qu'on soit clair par rapport à ça. À Grenoble, il y a une certaine opposition à ces projets sociaux et économiques d'envergure. Bon, une opposition faible, évidemment, mais quand même bien présente. On peut citer Sophie, peut-être ?
Oui, j'ai fait quelques recherches. Bon, on trouve plusieurs choses. Bon, en 2004, il y a eu l'occupation d'une grue sur le chantier de Minatech. Alors, Minatech, je le rappelle pour les auditeurs et les auditrices, premier pôle européen sur les nanotechnologies à Grenoble. Donc, voilà.
Bon, en 2005 également, je crois, hein, la contestation d'un grand débat démocratique qui s'appelait Sophie, aidez-moi.
Oui, alors, Sciences et démocratie
voilà. En toute simplicité.
C'était organisé par la ville de Grenoble, n'est-ce pas? Voilà, il y a également des distributions de pamphlets, bon, sans parler du cirque monté autour de l'inauguration de ce fameux centre Minatech. Qui a été, bon, je vois que vous réagissez, effectivement, on a entendu parler. Bon, c'était en juin 2006. Et plus récemment également, la perturbation de l'inauguration d'un tout nouvel institut des neurosciences. C'était fin 2007. Bon, on a l'impression que vraiment, à chaque fois que quelque chose de nouveau apparaît, ça y est, hein, la contestation apparaît également.
Non, puis malheureusement, je crois qu'on peut le dire, hein, c'est une contestation qui est également présente ici, hein, dans le Grand Sud-Est, autour du projet ITER, à Fort-Calquier, dans la région, des manifestations, perturbations de débats publics, distribution de pamphlets, graffitis...
Des graffitis.
Bon, Olivier, pour vous, en tant que spécialiste de la République et des systèmes démocratiques occidentaux. Votre avis là-dessus?
Vous savez, la population grenobloise est globalement raisonnable. Elle est évidemment favorable au développement technologique. Elle sait que ça va créer de l'emploi, du confort, et puis que c'est bon pour les rayonnements de sa ville. Mais nous avons effectivement eu quelques empêcheurs de tourner en rond. Des opposants qui interviennent violemment dans les débats, vous l'avez dit, dans nos débats démocratiques, qui manifestent, qui détruisent des choses, qui brandissent des banderoles, qui font des graffitis.
Oui, une contestation d'une violence inouïe.
Ah, une violence, ce sont des gens... vous savez, ce sont des gens souvent jeunes. Pas toujours. Des gens tristes. Qui veulent revenir à un âge d'Éden, je ne sais quoi, qui retournent s'installer à la campagne, bien que certains aient des diplômes, qui sont d'extrême gauche, je ne sais pas, qui ne croient ni en l'économie de marché, ni en l'essor technologique, qui veulent stopper la croissance, et puis quoi encore, s'éclairer à la bougie, vivre dans des cavernes, mourir à 20 ans.
Oui.
Je trouve qu'ils sont imprégnés d'un esprit antélumineux. C'est-à-dire, vous savez, moi j'appelle ça antélumineux. J'explique pour les auditeurs, c'est-à-dire antérieur au siècle des Lumières. Hostile à la science, donc hostile à la technologie, donc au progrès, donc à l'homme, et donc à la République par glissement, puisque la République et le progrès est historiquement indissociablement liés.
Oui, Marie von Boilata, je vois que vous faites la moue.
Oui, je boue un petit peu d'entendre tout ça. Vous ne pouvez pas dire des choses pareilles, Olivia, je suis désolée.
Et comment?
On ne peut pas dresser un tableau aussi méprisant des opposants. Hein. Quand des gens disent non, il faut chercher à les comprendre avant de leur tirer dessus.
Marie von Boilata, je vous coupe un peu simplement, comme vous venez d'arriver, je voudrais rappeler pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas que vous êtes élue verte et
tout
que vous
fait.
Avez récemment organisé de nombreuses expositions de vulgarisation de la science, hein, c'est un peu votre credo, des expositions telles que Nanodialogue, Neurojeu ou Pourquoi tant d'ADN. Voilà. Oui, je vous laisse poursuivre.
Oui, alors, ce que je voulais dire, ce qui me semble vraiment important, je vais prendre un exemple, peut-être qui parlera aux auditeurs. Je parle du stade du non. Vous savez, je pense que les auditeurs qui sont parents, qui ont des enfants, comprendront. Ces enfants de 2 ans qui disent non à tout. Bon, eh bien, c'est simplement pour prouver au monde qu'ils existent. Alors, ces contestataires, ces petits contestataires là qui brandissent des banderoles, qui font des graffitis comme vous voulez, on en a tous fait. Il faut bien à un moment passer par ce stade où on s'affirme, où on montre qu'on existe. Je pense que le parallèle est clair.
Olivia,
vous êtes par trop tolérante, Marie. Je ne doute pas de vos qualités d'analyse psychologique, mais on a réellement affaire ici, reconnaissez-le, à un anticivisme primaire. Avez-vous lu leur texte, Marie?
Bien sûr.
Des brûlots haineux comme ceux-là, quoique fort bien documentés, on se demande où ils obtiennent toutes ces informations. Ces gens-là, Marie, non seulement sont agressifs, mais en plus se réfugient dans l'anonymat. Vous avez vu, ils éditent des faux documents. C'est bien qu'ils ont quelque chose à se reprocher, Marie. En plus, ils jettent le bébé avec l'eau du bain, Marie.
Oui. Est-ce que je peux répondre,
Marie, répondez.
J'aimerais une fois de plus élever un peu le débat, peut-être placer cette question de la contestation dans un contexte plus large. Chaque société passe par des étapes, des stades, hein, des moments qui sont difficiles à passer, qui font peur, qui provoquent des crises. Quelques exemples. Aujourd'hui, nous maîtrisons le feu. Bon, eh bien les hommes préhistoriques, en leur temps, il a bien fallu qu'ils apprennent à maîtriser le feu. Et puis je ne sais pas moi, prenons un autre exemple. Au 19e siècle, la machine à vapeur. Il a bien fallu attendre un peu pour que les gens s'habituent. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes à l'aube d'une nouvelle révolution technologique. Et il faut prendre son temps, il faut accompagner ses peurs, les écouter, les comprendre. On ne peut pas se gargariser entre nous et penser que le reste du monde est stupide.
John Termos, l'opposition aux nouvelles technologies en tant qu'industriel, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Écoutez, vous savez, Madame Béchamel, je ne suis pas exactement du même bord politique que Madame Marie von Boilatas.
Oui, on s'en doute.
Néanmoins, concernant les opposants, si Marie von Boilatas dit que le soleil est jaune, je ne vais pas être obligé de dire qu'il est bleu. Non mais il faut bien comprendre que c'est un scandale cette opposition aux nanotechnologies, c'est un scandale. En période de crise économique, vous imaginez mes ingénieurs qui sortent de ma start-up le soir et qui se font distribuer un tract qui dénonce la nanotechnologie. Mais c'est la déprime et la productivité s'en trouve biaisée. Il y a un problème économique avec cette opposition-là. Alors écoutez, moi je vais vous dire une chose, Madame Béchamel, et je vais dire une chose aussi aux opposants politiques. Personne n'est obligé d'habiter Grenoble. Mais quand on habite Grenoble, on respecte ses règles. On respecte l'innovation, on respecte les industriels et on respecte le CEA. Alors si certains n'aiment pas Grenoble, qu'ils ne se gênent pas pour la quitter.
Bien, John Termos, je pense que ce message est clair.
Ah ben, on ne peut plus clair. Hein. John, vous êtes remonté. Jean Destaune, par rapport à ça, pour la ville de Grenoble.
Oui, si je puis me permettre, moi ce qui me frappe, c'est le manque de responsabilité. Je ne dis pas qu'à des moments, ces personnes n'ont pas posé des questions intéressantes. Mais voilà, après il faut arrêter d'être toujours dans la critique et il faut savoir s'asseoir à la même table que des gens responsables comme nous. Voilà, savoir être raisonnable et être constructif.
Bon, écoutez, il va sans dire évidemment, mais ces opposants, finalement, somme toute, posent-ils la bonne question, mais de la mauvaise manière, en y apportant une réponse peut-être difficile à entendre, ou la mauvaise question de la bonne manière, en s'y prenant difficilement, mais pose-t-il peut-être sinon la mauvaise question de la bonne manière, en y apportant une réponse peut-être, Olivia L.
C'est une très bonne question.
Merci.
Oui. Je pourrais peut-être intervenir. Justement, pour une fois, essayons de donner un petit peu d'optimisme à cette discussion. Hein. Je voudrais donner l'exemple d'une contestation qui mène à une régulation réussie, finalement, de ces technologies. Je voudrais parler de la CNIL. Parce que la CNIL...
Alors, la CNIL, je vous interromps, Madame Boilatas. La CNIL, je rappelle pour nos auditeurs, c'est la Commission Nationale Informatique et Liberté. Elle est chargée de contrôler l'introduction des technologies mettant en jeu des informations personnelles, telles que la vidéosurveillance ou encore la biométrie.
C'est tout à fait ça. Alors, ce que je veux dire avec la CNIL, qu'est-ce que c'est ? La philosophie profonde de la CNIL. Hein. C'est deux principes de base. Le premier principe, c'est la proportionnalité des moyens par rapport aux objectifs. Et le deuxième principe, c'est la fiabilité des systèmes, hein, leur vérification, leur légalité, leur fiabilité, etc. Voilà. Donc, peut-être que je peux donner un exemple ou deux.
Bien sûr, quelques exemples, voilà. Hein, peut-être d'intervention de la CNIL pour nos auditeurs.
Donc, prenons un exemple vraiment assez large, assez répandu, les établissements publics, les collèges et les lycées en France. En ce moment, nombre de chefs d'établissement essayent de, disons, rationaliser, optimiser un petit peu l'accès à leurs bâtiments, et notamment aux cantines scolaires. Alors, un système qu'on utilise de plus en plus, c'est la biométrie.
La biométrie, si vous pouvez expliquer.
Oui, alors
un
la
petit
biométrie,
peu.
Qu'est-ce que c'est ? Alors, dans ce cadre-là, par exemple, c'est un élève qui, pour rentrer à la cantine, va apposer sa main face à une caméra. Et la caméra va le reconnaître et donc il pourra passer le sas pour rentrer à la cantine. Bon alors ça marche assez bien, hein, c'est installé dans de nombreux établissements. Le problème c'est quoi ?
J'imagine simplement que ça permet de fluidifier l'accès à la cantine.
Tout à fait, de pouvoir réguler, de surveiller aussi les comportements des élèves, hein, éviter les échanges de cartes entre les élèves, les badges avant qu'on avait avec des codes barres, hein, ou alors aussi bien vérifier que chaque enfant mange à la cantine et essayer de réguler un peu les phénomènes de boulimie, d'anorexie, etc. Enfin tous ces troubles de l'alimentation. Qui sont quand même très présents chez les adolescents.
Tout à fait.
Bon, ça c'est très bien. Mais imaginez que demain, ou même aujourd'hui, un élève, en montrant sa main à la caméra, voit apparaître sur un écran, au vu et su de tout le monde, en plus de son nom, peut-être son carnet scolaire, son suivi médical, ses antécédents judiciaires, ou je ne sais pas, moi, voilà, ce genre de choses.
Peut-être le relevé fiscal, tout simplement.
Non, pas le relevé fiscal.
Le relevé fiscal. Ce sont des élèves. Hein. Imaginez, quand bien même le relevé fiscal, c'est disproportionné. Eh bien là, la CNIL intervient, et elle intervient non pas comme ses contestataires en levée de bouclier pour refuser cette technologie en bloc, mais simplement pour la limiter et faire en sorte qu'elle soit adaptée à l'objectif, c'est-à-dire de faire rentrer chaque enfant à la cantine.
Des exemples d'interventions de la CNIL, peut-être, Marie-Vonne Bollatas?
Oui, alors un autre...
Vous avez participé, hein, vous avez
oui,
pu
oui, bah,
voir...
Très bien, sur ma commune, hein, Grenoble, le grand stade des Alpes, le stade de football qui a été construit dernièrement, ce stade, 86 caméras, nous avons fait intervenir la CNIL, 2 caméras illégales, elles ont été enlevées.
Oh, bah, donc c'est... plus que 84 caméras.
Tout à fait.
C'est formidable.
Efficace. Bon, poursuivons. Jean Destone, je me tourne vers vous. Forum Libération, Forum Mondial de la Démocratie Participative, Nanovive, Consultatif de Secteur, Comité de Quartier à Grenoble. On sait ce que c'est, la démocratie participative.
Eh bien, tout à fait. Elle fait partie même de la très belle histoire de notre ville. Voilà, je tiens à rappeler d'ailleurs que Grenoble a été pionnière, a inventé les unions de quartier dans les années 50. Grenoble, c'est aussi la ville d'Hubert Dubédo, le fameux maire qui a inventé la démocratie participative. Moi, maintenant, je préfère dire participative, vous savez. Et aujourd'hui aussi, nous innovons avec notamment, nous venons de mettre en place la charte de la démocratie locale qui va permettre à tous les grenoblois et grenobloises de s'impliquer dans la vie de la cité. Et j'espère que nous allons faire tache d'huile et que mes alter ego, notamment ceux locaux, messieurs Caténaire, messieurs Jean Mépermont-Latin, vont mettre aussi des initiatives dans leur ville pour permettre à tous les citoyens de s'impliquer. Voilà, en fait, à la base de ça, c'est la conviction que la précipitation est mauvaise conseillère et qu'il faut savoir écouter tout le monde, il faut savoir dialoguer, il faut savoir discuter jusqu'à ce que les décisions qui ont déjà été prises rencontrent un véritable consensus dans la population. Parce qu'il faut bien se rendre compte que nous vivons dans une démocratie où nous avons le choix.
Ah oui, non, mais puis je crois qu'il faut être clair, Jean Destone, là-dessus, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est une vérité. Enfin, nous vivons en démocratie, il faut savoir le rappeler en temps et en heure.
Alain, oui, merci.
Oui, je voudrais pas intervenir.
Marie-Fonne Bollatas.
Je suis pour la démocratie, je suis pour le dialogue, je suis pour la concertation. Mais on ne peut pas parler comme ça, sans faire des choses, sans rentrer dans l'action. Vous ne pouvez pas demander à des gens de vous suivre sans leur expliquer les projets que vous avez pour eux. C'est le béaba de la pédagogie. Bon.
Voilà. Hein, Olivier, je vous vois...
Tout à fait. Moi, je peux expliquer, hein, Marie. J'ai tenté, moi, d'apporter ma modeste expérience de politologue en matière de démocratie. Comme disait Jean Destone tout à l'heure, à Grenoble, nous avons testé plusieurs formes. Donc, succinctement, je peux vous dire, par exemple, dans de grandes assemblées, en 2005, à la Maison de la Culture. Là, on se serait cru dans une véritable agora populaire. En comité plus restreint, nous avons tenté aussi, pendant le cycle de débat, « Vive les nanos ». En 2007-6. Alors là, on se serait cru dans une sorte de salon, de causerie du 18e. Alors là, c'était vraiment passionnant. Là, je dois dire, j'ai été bluffée. Ah oui. Les Grenoblois étaient curieux. Ils voulaient savoir ce que nous autres décideurs avions prévu pour eux. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment fait preuve d'un réel esprit citoyen. Je ne l'aurais jamais imaginé avant. Mais vous savez, les citoyens aussi ont des exigences. Ils posent des questions, ils sont avides de connaissances. Et c'est normal. Ils veulent savoir à quelle sauce ils vont être mangés, en quelque sorte. Dans ce souci de transparence républicaine, moi, je me suis dit, il faut que je continue cette aventure. Et c'est pour ça que je vais sûrement participer, je le dis aux auditeurs et auditrices de cette radio, je vais sûrement participer à la Commission nationale pour le débat public, qui vise à faire accepter, enfin, à dialoguer autour des projets ITER, de la route à grand gabarit.
Voilà, qui intéressera les auditeurs locaux, oui.
Exactement. Vous savez, je suis contente de participer à cette aventure démocratique, parce que ce n'était pas forcément gagné. Vous savez, il y a parfois un gap inénarrable entre les paradigmes épistémologiques et prospectifs développés par les tenants des appareils technoscientifiques et les velléités de repossession des moyens décisionnels inhérents aux quidam non compétents.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas toujours ce qu'on a à leur dire.
Très bien, oui. Alors, on va continuer. Quand même, Madame Bollatas, une petite... Terminez votre intervention,
c'est
vous en
justement,
prie.
Je voudrais rebondir. Hein. Les gens ne comprennent pas ce qu'on a à leur dire, Olivia.
Oui.
Eh bien, on prend le temps de leur expliquer.
C'est ce que nous faisons.
Si l'on veut que vidéosurveillance, liberté, démocratie puissent rester compatibles, il faut se donner un peu de mal.
John Termos, oui.
Écoutez, Marie von Bolatas, je bois vos paroles. Et au fond, je suis ému parce que nous faisons le même métier. Vous, la pédagogie, moi, le marketing, mais tout ça pourquoi ? Pour mettre la science au service de l'homme. Nous luttons contre la tristesse, contre l'aigreur. Nous luttons pour la liberté. Nous luttons pour le bonheur.
Jean Destone ?
Oui, je rebondis, parce que moi, j'ai fait une analyse, il y a quelque chose qui me chagrine actuellement dans la société, c'est que toute une frange de la jeunesse est uniquement dans la contestation, dans le rejet, dans le refus, dans le négatif, c'est ce qu'on appelle souvent la génération non-non. Moi, je trouve ça triste, et j'aimerais passer à une autre étape, j'aimerais donner de l'espoir, j'aimerais être dans le constructif, dans le positif, et passer de la génération non-non à la génération ouais-ouais.
Ouais-ouais.
Ouais.
En Isère, ouais. Comme à ITER, un.
Ouais,
pas de misère, ouais. Que des vipères.
Ouais. 2009, à Grenoble et Fort Calquier, que du neuf. Ouais.
Nucléaire, nanotech.
Ouais. Toujours prêt à partir en sucette.
Un.
Moi, c'est Destone Jean et je suis adjoint au maire. L'essentiel de mon temps, je le passe à brasser de l'air. Pas pour aider les gens à sortir de la demeure, mais pour rationnellement faire tourner les affaires. La course à l'emploi, telle est notre passion. Alors on attire des teuboires en leur filant des gros bifetons. Mais tout ça, ça sert à quoi? En voilà une bonne question. Nous, on fait n'importe quoi tant qu'il y a de l'innovation.
Nous, on fait n'importe quoi tant qu'il y a de l'innovation. Décider, détruire et construire. Investir, développer, attirer, en nettoyer, aseptiser, contrôler, sécuriser, acheter, asservir, rendre ça nécessaire, évident, honey yang yang, figuine yang yang yang, communiquer, faire participer, et puis réprimer, désolé.
Et ouais, parce qu'il y a des gens sceptiques, technophobes, anti-tout. Armés de textes critiques, brûlots remplis d'égout. Mais s'ils aiment pas la technique, c'est leur problème, moi je m'en fous. Mais je dirais à ces excentriques de retourner s'éclairer à la gibou. Et ouais, je réponds du tac au tac aux avis pathétiques. Je suis toujours à l'attaque et telle est ma tactique. Article dans la presse et l'élogieux. Bâtiment prestigieux, grand stade, Ikea ou MC2. Du pain et des jeux. Un super cluster.
Dans toute l'Europe, c'est le meilleur.
La concurrence américaine, chinoise ou japonaise, on n'a même pas peur. Des gadgets à la con. Application sécuritaire à foison. On est prêt à tout pour faire monter la pression. On est prêt à tout pour faire parler notre région. On est prêt à tout pour faire couler du béton. On est prêt à tout tant qu'il y a de l'innovation. On est prêt à tout pour faire monter la pression. On est prêt à tout pour faire parler notre région. On est prêt à tout pour faire couler du béton. On est prêt à tout tant qu'il y a de l'innovation.
Il est 8h. Le réveil me tire du sommeil. J'émerge lentement et me rappelle avec plaisir qu'aujourd'hui est une journée tranquille. Je dois aller m'acheter un jeu vidéo qui vient de sortir et consulter les offres d'emploi. Je ne travaille qu'à temps partiel, c'est pourquoi je dois prouver que je consulte d'autres offres au moins une fois par semaine. Une opération somme toute rapide. Passer le portail lecteur de l'agence, qui lit aussitôt les données contenues dans ma puce d'identité, puis attendre qu'un des terminaux appelle mon nom, et enfin répondre aux offres personnalisées qui s'affichent. Comme d'habitude, je réponds presque au hasard, puisque les offres sont parfaitement adaptées à mon profil. Compétences, capacité physique, lieu d'habitation, disponibilité, contre-indications médicales et enfin casier judiciaire. Toutes ces informations dans ma puce. Une simple formalité. Ensuite, je pourrai simplement découvrir ce nouveau jeu chez moi, confortablement. En sortant de mon lit, je ressens une légère douleur à la base gauche de mon cou, là où ma puce est implantée, grosse comme un grain de riz, imperceptible au toucher. Je me masse, la douleur s'atténue. Étrange, je n'avais jamais eu mal à cet endroit. Quelque chose me surprend à mon entrée dans la cuisine. La cafetière est en route, mais la lumière et la télé ne s'allument pas, les volets ne s'ouvrent pas. Je me rapproche du lecteur, censé détecter la présence de ma puce. La diode verte est allumée, il a l'air de fonctionner. étrange encore. Me voilà contraint d'utiliser la télécommande et de faire venir un réparateur. Finalement, cette journée me fatigue déjà. Je m'engouffre dans le métro. Perdu dans mes pensées, regardant le sol, je me présente devant l'un des portiques en marchant à grands pas. Soudain, un bip strident me fait relever la tête. Just in time. J'ai failli me ratatiner contre les portes vitrées, fermées. Un message en rouge s'affiche et se met à clignoter. Pas de crédit détecté. Veuillez recharger votre compte. Je jure, je suis pourtant persuadé d'avoir assez de crédit. Que se passe-t-il encore? Je fais demi-tour et affronte les regards lourds de reproches des usagers et usagères pressés qui me bousculent. Peut-être me suis-je trompé au moment de mon compte Liberté Transport? Après tout, je le fais tellement automatiquement, je devais avoir la tête ailleurs. Je demande donc le prélèvement direct sur mon compte qui m'évitera ce genre de situation. Mais un doute, une angoisse commence à venir. Si quelque chose ne marchait plus dans ma puce? Impossible. Ils le disent tous les jours à la télé. La technologie sans contact, utilisée pour les puces d'identité universelle, est hyper fiable, hyper sécurisée. N'empêche, si je ne pointe pas aujourd'hui pour les embauches, ma lettre de menace de radiation arrivera dans 2 jours. Il y a bien encore un employé à l'agence auprès duquel je pourrais faire les démarches, mais je n'ai pas pris ma vieille carte d'identité externe avec moi. En fait, je n'ai absolument aucune idée d'où elle peut être. Elle est devenue tellement obsolète depuis les puces universelles. Bon, respirer, se décontracter, ne pas se laisser aller dans ces divagations. D'abord, je vais aller acheter mon jeu, ça me détendra et il n'y aura aucun problème, puisque j'utilise encore une carte de crédit. Heureusement, je n'ai pas encore fait le changement pour payer avec ma carte d'identité. Ceci dit, dès que les dysfonctionnements seront réglés, je m'en occuperai. C'est tellement plus sûr contre le vol. Je rentre dans le magasin et me dirige vers le rayon qui m'intéresse. Au passage, je ne peux m'empêcher de jeter un œil aux dernières nouveautés bioniques. Casque audio-visio-olfactif, combinaison tactile multisensorielle, électrode corticale de surface, micro-injecteur d'adrénaline. Autant de merveilles qui permettront de me sentir complètement dans le jeu. Enfin, quand j'aurai les moyens, disons dans de très nombreuses années. Je soupire. Une main sur mon épaule m'extirpe brusquement de mes rêveries. « Bonjour monsieur, veuillez me suivre s'il vous plaît. » Abasourdi, je ne parviens pas à articuler un seul mot avant d'être dans le bureau de la sécurité. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il se passe. Vous pensez que j'ai volé quelque chose? Un des deux vigiles répond. C'est très simple. Nous sommes équipés d'un portail à vérification numérique de puçage. Le lecteur de puce est couplé à une caméra qui compte les individus qui entrent. Cela permet de vérifier en temps réel que chacun a bien sa puce d'identité et d'appréhender les personnes qui n'en ont pas. Vous comprenez? Les non-pucés sont les personnes qui volent le plus. Elles effectuent aussi des opérations de sabotage. Ce système est fait pour nous en protéger. Notre commerce est une de leurs cibles favorites. Mais je ne suis pas un non-pucé. Regardez, ma puce est bien là. Peut-être, mais le lecteur n'arrive pas à la lire. Donc, rien ne nous prouve que vous ne l'avez pas volontairement désactivée. De toute façon, vous expliquerez tout ça à la police. Ils arrivent. C'est hors de notre domaine maintenant. Je suis dans le fourgon de police. C'est illégal de ne pas avoir de puce d'identité en fonctionnement. La police doit vérifier mon identité et m'implanter une nouvelle puce, provisoire. Si je ne me présente pas dans 2 jours pour l'implantation, j'entrerai alors dans le fichier national des personnes recherchées, et cela pour le délit de non-puçage, passible de 10 ans de prison. C'est la nouvelle procédure. Bien sûr, ils vont également prélever mon ADN, étant né avant 2015, date à laquelle le prélèvement est devenu obligatoire à la naissance. Je suis rassuré maintenant, tout s'explique. Une puce sur 10 000 peut avoir un défaut de fabrication, c'est tombé sur moi, pas de chance. Mais dans 2 jours, tout sera rentré dans l'ordre. Les menottes me font un peu mal au poignet, mais le plus dur, c'est le regard suspicieux des policiers qui me prennent pour un non-pucé, un terroriste. Je n'en reviens tout de même pas, moi qui n'ai jamais rien eu à me reprocher. Derrière moi, dans le fourgon, se trouve une grande cage avec un chien. Le chien me regarde, l'air interrogatif. Il a l'air gentil. Je demande à l'agent assis à côté de lui. « Vous l'avez trouvé où? Il n'a pas de propriétaire ?»« On n'en sait rien. Sa puce est illisible. on ne peut pas savoir si ses vaccins sont à jour, alors on l'emmène au centre de piquage. C'est la procédure pour les animaux, c'est une question de santé publique. Le policier s'adresse alors au chien en rigolant. « Pas de chance, hein, mon pote. T'as sûrement plein de puces, mais t'as pas la bonne. » Finalement, je me dis qu'après tout, cela vaut sans doute mieux pour le chien. Vivre sans maître, cela ne doit vraiment pas être facile.
Eh bien, reprenons, parlons d'avenir, parlons du futur. Quel est l'impact sur l'aménagement du territoire de tous ces grands projets ? Imaginons un peu comment sera Grenoble dans 20 ans, à quoi ressemblera le Fort Calquier, le Manosque de demain. Prenons l'exemple de Grenoble. On entend parler de Sillon Alpin, John Termos.
Écoutez, monsieur Bédoué, c'est la crise. C'est la crise, et pour s'en sortir, il faut briller au niveau international. Le problème de Grenoble, c'est que Grenoble est trop petite. Avec 500 000 habitants, elle ne fait pas le poids face à Shanghai, à Tokyo ou à Los Angeles. Voilà pourquoi Grenoble doit se lier avec les villes voisines pour former une grande métropole, un sillon alpin qui partirait de Genève, Valence, Lyon, Grenoble. Vous savez, monsieur Bédoué et madame Béchamel, les métropoles économiques à grand potentiel de développement sont repérés de nuit par les investisseurs, grâce aux images fournies par les satellites. Et plus les villes sont lumineuses la nuit, plus les investisseurs sont intéressés. Lorsque le sillon alpin, entre Grenoble et Genève, s'illuminera de manière continue, lorsque les biotechnologies de Lausanne, l'informatique de Genève, la mécatronique d'Annecy et les nanotechnologies de Grenoble ne formeront plus qu'une longue colonne vertébrale,
nous aurons gagné.
Oui, alors, bon, le sillon alpin, donc une seule grande ville, vous en parliez, John Termos, mais concrètement, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas pour tout de suite, concrètement, le sillon alpin, aujourd'hui, comment ça se passe ? Jean Destone ?
Concrètement, aujourd'hui, je crois que c'est surtout le développement des transports, je pense à l'autoroute A51, je pense à l'autoroute Annecy-Genève, mais aussi à la rocade nord autour de Grenoble, qui va nous permettre de résoudre un gros problème qu'on a à Grenoble, c'est les montagnes qui sont à côté. Ah. Et là, en passant sous la montagne, on va pouvoir enfin permettre la libre circulation, j'ai envie de dire, la liberté. Voilà l'idée derrière tous ces aménagements de transport entre les différentes villes, c'est de mieux relier les territoires, mieux relier les hommes, finalement, pour avoir enfin la sensation de vivre dans une même grande ville, dans un même monde.
Ça fait rêver. Marie-Vonne Boilatas ?
Oui, alors je voudrais intervenir un petit peu pour amener la parole et la vision des Verts sur ce problème, parce que ça me semble quand même important, les transports. Alors nous, chez les Verts, nous sommes surtout réalistes. Hein. Donc nous sommes contre les autoroutes. Nous sommes contre, mais nous sommes pour leur aménagement. Ce qui me semble.
Alors, en quoi ça consisterait ?
Alors, oui, hein, depuis la rocade nord à Grenoble, en passant par l'autoroute A51 de Grenoble à Sisteron.
Bah, je vous coupe rapidement la rocade nord, hein, une sorte de rocade au nord de Grenoble pour terminer la ceinture de la ville, hein, comme chaque grande agglomération française.
Tout à fait, qu'on prétend quand même faire passer sous une montagne. Hein. Je le fais remarquer, et c'est bien pour ça que nous sommes
oui,
contre.
Oui, sous une montagne, bien sûr.
Ce n'est pas piquer des vers, Marie.
Poursuivez.
Oui, j'ai un peu de mal à me concentrer ce soir, je sens... Bon, bref. Je donnais quelques exemples. Je pourrais parler aussi de l'autoroute entre Digne et Château-Arnoux, hein, qui est plus proche du studio où on se trouve.
Un exemple local.
Voilà. Alors, pourquoi ne pas faire, plutôt qu'une autoroute, une deux fois deux voies, par exemple, avec un péage ?
Ah oui.
Mais c'est
oui,
pas très voilà. Cohérent. C'est pas...
On peut ajouter des vraies barrières anti-bruit, des plates-bandes et des plates-bandes, comment on dit, ce qui est le long des autoroutes, là, des plates-bandes, un peu dignes de ce nom, je ne sais pas, moi, plantées en lavandin, des crapauducs, toutes choses qui sont vraiment importantes et qu'on ne voit pas vraiment sur les autoroutes.
Les crapauducs, Marie-Vonne Boilatas ?
Oui, eh bien,
ça
ne
sert à rien, les crapauducs. C'est...
Écoutez, Jean, je ne veux pas m'énerver, mais les crapauds...
Vous le faites. Hein,
c'est plus important qu'on ne croit. La reproduction des crapauds, ça ne se passe pas dans 30 ans, ça ne se passe pas dans 6
N'importe
mois.
Quoi.
C'est maintenant la reproduction des crapauds. Ce n'est pas un sujet secondaire. On accule toujours les Verts avec ce genre de sujet. Nous ne sommes les seuls à les porter. Hein, que ce soit en Rhône-Alpes, en PACA ou n'importe où, les crapauds, c'est important.
Mais c'est vrai qu'on sent que vous êtes passionné. Alors, bon...
Je... peut-être que je pourrais expliquer un peu plus largement le débat, parce qu'on nous, nous rabat toujours cette question des crapauds. Je veux la défendre et c'est un petit peu mon... Comment dire, voilà, mon point...
Madeleine.
Ma petite Madeleine, si vous voulez. Mais en tout
cas... Allez-y.
Le but du jeu dans les Alpes, c'est quoi? Une autoroute par vallée. Bon, d'accord. Mais le problème des voies de communication, c'est qu'à chaque fois qu'on construit une nouvelle voie, on augmente le trafic. Donc, il faut trouver une alternative pour désengorger. Alors, l'alternative, c'est quoi? C'est le train. Ce qui veut dire, en un mot, à chaque autoroute, son train. Pas d'automobile sans TGV, pas de TGV sans automobile. C'est mathématique.
C'est mathématique, on l'aura compris. Alors, nous avons parlé du sillon alpin et de la région grenobloise, mais ici, tout près de Cadarache, le projet phare pour l'avenir de la région, c'est le programme ITER. Jean-Louis Baudra, je me tourne vers vous. Vous êtes récemment venu vous installer dans la région du Soleil,
tout à fait,
pour participer au programme ITER. Alors, si j'ai bien compris, le but d'ITER, c'est de recréer un petit soleil.
C'est ça, de recréer un petit soleil, de recréer plus précisément les réactions de fusion nucléaire qui ont lieu au cœur du soleil. Chose qui n'a jamais été faite pour l'instant sur Terre, puisque les centrales actuelles fonctionnent à la fission nucléaire. Vous le savez sans doute. Pour faire de la fusion nucléaire, il faut atteindre des températures extrêmes, des millions de degrés, dans un plasma d'hydrogène. Évidemment, aucun matériau ne peut résister à ces températures, donc ce plasma, il faut le confiner, le mettre dans une chambre à vide, de telle manière qu'il ne touche aucun matériau, et pour ça, on utilise un tokamak, c'est-à-dire un ensemble d'énormes bobines qui créent un champ magnétique extrêmement puissant pour confiner ce plasma. Ça veut dire qu'il faut faire cohabiter des températures de millions de degrés avec des températures très froides, de moins 270 degrés, pour refroidir justement ces bobines. Donc une machine très complexe.
Une prouesse, j'imagine.
Voilà, une véritable aventure technologique internationale qui va être l'aboutissement de dizaines d'années de recherche dans différents pays de la planète, et auquel je suis vraiment très fier, évidemment, de participer. Une machine pour laquelle on a besoin de nouveaux matériaux, de matériaux de nouvelle génération permis par les nanotechnologies, de capteurs intelligents, de robots, bref, un concentré de technologies.
Oui, j'imagine que vous pouvez être fier de participer à cette aventure. Simplement, Jean-Louis Baudra, ITER, qu'est-ce que
ça veut dire ?
Ah
oui, c'est vrai, j'ai oublié. ITER, évidemment, un acronyme anglais, International Treaty on Experimental Reactors.
En français.
Traité international sur les réacteurs expérimentaux.
Merci. Oui, enfin surtout, ITER, ça vient quand même du latin itineris itinerum, le chemin,
c'est vrai.
Du progrès.
C'est vrai aussi, oui.
Merci Olivielle. Oui, Marie-Fonne Bolatas.
Oui, je voudrais peut-être intervenir pour dire que pour une fois, pour cesser d'être toujours dans la bagarre polémique, pour une fois en tant qu'élu écologiste à Grenoble, je suis ravie par le développement du projet ITER. Car ce que je dois dire, c'est que ITER, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est aussi le déplacement, le glissement progressif du nucléaire vers le sud, vers Valence, Cadarache. Ce qui signifie, en deux mots, le démantèlement des trois réacteurs nucléaires que nous avions jusqu'alors à Grenoble. Ce qui est quand même vraiment intéressant, parce que c'est ça aussi qui permet au CEA Grenoble de se concentrer sur les nanotechnologies, ce qui fait quand même un peu plus... je ne sais pas comment dire, un peu plus hype, surtout quand on brigue le titre de première ville écologique de France, comme c'est le cas à Grenoble. Bon, et puis parallèlement, évidemment, je suis ravie pour mes collègues de Provence qu'ils puissent profiter de l'essor du développement d'ITER dans leur région et ce que ça pourra leur donner de promesses de développement plus large.
Donc malgré vos positionnements un peu envers et contre tout, vous êtes pour le nucléaire, finalement?
Mais non, voyons, nous ne sommes pas, les Verts ne sont pas pour le nucléaire. D'ailleurs, sur la région PACA, nous avons quand même mené une grande bataille que nous avons gagnée par rapport à ITER. Il faut le rappeler.
Alors, parlez-nous de cette bataille.
Voilà, alors comme nous, les Verts, chez nous, nous sommes pour l'alternative. Donc avec ITER, c'est Alter ITER. Pour 1 euro dépensé pour le projet ITER, nous avons obtenu 1 euro dépensé pour les énergies renouvelables. Et ça, c'est pour un.
Je crois que c'est pas totalement exact.
Jean Destone.
Car ce que vous n'aviez pas calculé, c'est que dans le budget alloué par les collectivités locales au programme ITER, l'essentiel n'allait pas directement au réacteur, mais bien à la construction de la RGG, la route à grand gabarit.
Oui, c'est du pinaillage, ça. Je veux dire, on a quand même gagné.
Non, vous n'avez rien gagné. D'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage à un adversaire politique, monsieur Jacques Chirac, qui a réussi à véritablement réaliser un gros coup de bluff dans les négociations internationales un coup de bluff, je veux dire, très beau, n'est-ce pas
Mais alors, de quoi s'agit-il?
Eh bien, en fait, il est parvenu à faire croire à tous les concurrents internationaux qui voulaient accueillir ITER dans leur pays que le site de Cadarache était au bord de la mer, alors qu'en réalité, il se situe à 100 km. Donc ça a permis, ça fait d'une pierre deux coups, car non seulement la France a eu ITER, et en plus ça permet de réaliser un grand chantier, de construire une grande route, un chantier colossal, énorme, grandiose, beau, comme le viaduc de Millau un peu, et qui et ce chantier c'est quoi? C'est de l'emploi, et l'emploi c'est quoi? L'emploi c'est la vie.
Oui, je crois que vous faites allusion, Jean Destone, à la route à grand gabarit. Donc une route, si je ne
la
me trompe
RGG, pas... La RGG, on le rappelle.
Voilà, la RGG qui va rejoindre Fos-sur-Mer et Cadarache. Donc traverser tous les temps de Berre, hein, comme ça, une grande, grande route qui va permettre donc de transporter des éléments remarquablement lourds et encombrants, je crois, un petit peu comme ça avait été fait dans le sud-ouest pour le gros, gros avion là, qui avait été construit. Jean-Louis Baudra, n'est-ce pas?
Oui, effectivement, on a besoin de transporter des énormes morceaux de bobines. Ces bobines qui font jusqu'à, enfin, ces morceaux de bobines qui font jusqu'à 17 mètres de long et 500 à 600 tonnes pour chaque élément. Donc, une grande aventure humaine hein, avec cette route.
Et puis, on va pas les mettre sur les départements.
Je voulais repréciser. On espère, j'espère, en étant optimiste, que dans peut-être 15 ans, on aura les premiers mégawatts produits par cette fusion nucléaire à ITER. En tout cas, du travail pour des générations de spécialistes, de techniciens, d'ingénieurs qui viendront de tous les pays.
Je rajouterais même encore plus de travail, puisque contrairement à ce que dit mon collègue Jean Destone, c'est un grand projet, cette RGG, mais ce n'est pas un bel ouvrage comme le viaduc de Millau. Hein. C'est un ouvrage que nous allons démonter dès qu'il aura servi.
Marie-Bonne Bonatas, par rapport à ça, il paraîtrait d'ailleurs qu'il y aurait un travail de partenariat avec IKEA. Est-ce vrai?
Vous vous moquez, Alain. J'ai l'impression que je suis l'objet Alain. De tous les camouflets.
Okay, Bonatas, je ne vous permets pas. J'ai des informations, des sources. Je suis journaliste.
Ah, Alain. Bon, on va poursuivre.
Hein, poursuivons.
Bon, finalement, je me dis que quand on compare Grenoble et Manosque, deux villes bien différentes, somme toute éloignées de quelques centaines de kilomètres, 100, 200 kilomètres. Des tailles bien différentes, mais on peut observer une grande proximité finalement dans le développement des infrastructures locales et de l'aménagement du territoire. Jean Destone peut-être ?
Tout à fait, car je crois qu'avec mes alter ego, messieurs Caténaire, Jean-Méper Mélantin, etc., nous partageons la même philosophie de l'action publique, c'est-à-dire la philosophie de la course à l'emploi, c'est-à-dire d'aller chercher tous les emplois, quels qu'ils soient, avec les dents s'il le faut. Et ce qui permet de réaliser des aménagements extraordinaires, tant au niveau des infrastructures qu'au niveau de l'urbanisme. Voilà, à Grenoble, nous avons un grand projet actuellement qui s'appelle le projet Giant, qui n'est
Giant.
Pas un hamburger, mais qui est l'acronyme de Grenoble Isère Alpes Nanotechnologies, qui consiste à remodeler tout un quartier de la ville pour accueillir les cadres supérieurs qui viennent travailler dans les grandes entreprises scientifiques de notre ville. Et donc, tout cela se fait avec des écoles internationales, mais aussi à base d'écologie, de développement durable, de normes ISO 14001, de bâtiments HQE. Et je crois que c'est un peu les mêmes choses qui se passent ici, si je crois ce que j'en ai lu, au niveau des projets Héliopolis, Technoparc, l'école internationale. Voilà, en fait, derrière tout ça, c'est un peu la construction du monde de demain, dans un avenir radieux et non pas irradié, comme le disent certains mauvaises langues.
Merci Jean. Mais oui. Également, je crois que ce qui ressort de tout ça, finalement, c'est du lien, Sophie, là-dessus.
Oui, l'heure tourne, on va aller vers la fin de l'émission.
Bien sûr, il va sans dire, mais bon, nous entendons deux régions, beaucoup de consensus, mais finalement, sur un autre sujet, peut-être abordons un sujet un peu plus fâcheux. J'aimerais vous dire, vous parlez de l'année 68, de nombreuses manifestations, si je vous dis donc Grenoble...
Les Jeux Olympiques.
Les Jeux Olympiques.
Les Jeux Olympiques, tout à fait, bien sûr. Tout le monde en cœur, hein, vraiment. Une vraie passion.
Oui, alors il est vrai qu'on n'est plus qu'à un mois et demi du choix de la ville française. Alors là, on n'est plus en 68, on est bien en 2018, hein, bientôt les Jeux Olympiques en France. Alors on n'est plus qu'à un mois et demi du choix de la ville française. De nombreuses villes candidates. On a Nice, Annecy, Grenoble et même Pelvoux.
Bien sûr,
Pelvoux. Et c'est voilà. 546 habitants. Hein.
Voilà. Alors, Jean Destone, je me tourne vers vous. Simplement, j'imagine que vous portez la candidature de Grenoble.
Bien évidemment. Car c'est une très bonne transition d'ailleurs. Car la candidature de Grenoble, pourquoi? Pour réaliser les grands aménagements dont a besoin Grenoble. Parce que les JO, c'est quoi? C'est avant tout des aéroports. Les JO, c'est des routes. Les JO, c'est du train. Et ça va permettre enfin de désenclaver notre région. Et en plus, notre candidature est la plus historique et la plus...
Jean...
Jean, excuse-moi, d'habitude, je suis toujours d'accord
avec toi.
Arrêtez
de me couper la parole, je sais que vous avez l'habitude des assemblées générales étudiantes, mais...
Écoutez, Jean, nous avons l'habitude de travailler ensemble, je sais que tu es un bon élu, mais là, vous comprenez bien que là, ce serait intéressant que ce soit Annecy qui porte la candidature, puisque dans une logique de développement du sillon alpin, Annecy n'a jamais eu les Jeux Olympiques.
Pelle-vous non plus, et il faut donner sa chance au petit territoire de montagne, une candidature originale.
Non mais enfin, les Jeux Olympiques d'hiver, c'est Nice.
Enfin, mais à Nice, il n'y a pas de montagne.
Et oui, il y a le Mont Blanc à Nice, peut-être.
Non, mais écoutez...
Pelle-vous, c'est la candidature originale du 21e siècle.
La vallée de Chamonix.
Je vous demanderai de dépasser les clivages ce soir.
La ferveur populaire de Grenoble.
S'il vous plaît, bon, Olivia L, reprenons plus sereinement. Comment analysez-vous cette grande liesse que sont les JO pour une ville? Pour vous, c'est quoi ces JO? C'est la fête, peut-être la...
Écoutez, les Jeux Olympiques, c'est formidable. Ils ont une valeur sociale, mais hors du commun. L'idéal olympique, cher à Pierre de Coubertin, c'est le dépassement de soi. C'est l'honneur, c'est le mérite, le travail d'équipe, le goût de l'effort et de la victoire. Mais l'idéal olympique... C'est l'inverse de l'attentisme, du pessimisme, de l'obscurantisme, de l'individualisme, du repli identitaire. Les Jeux Olympiques, mais c'est un dynamiseur pour l'économie et les infrastructures, Jean l'a dit précédemment, mais ils ont aussi un potentiel fédérateur inégalable. Mais vous savez, tout le monde le sait, lorsque Jean-Claude Killy a gagné sa médaille d'or aux Jeux Olympiques de 68, mais tout le monde a versé une larme, du ministre à la boulangère, du diplomate, peut-être même les opposants. Il n'y a pas de guerre avec les Jeux Olympiques, il n'y a pas de crise avec les Jeux Olympiques. En 2018, il faut que nous ayons les Jeux Olympiques d'hiver. Ça permettra de développer l'essor de notre pays. Et ça, évidemment, où que les Jeux se passent. Bon, bien sûr, si c'est Annecy, il y a plus de chances que l'économie...
Mais arrêtez de vous chamailler comme ça, on dirait une vraie cour de récré, pourvu qu'il soit carbone composé. On s'en fiche, en fait.
Mais justement, à Grenoble, nous avons un projet écologique.
Bon, Annecy, très bien. C'est complètement la nature.
Nous devons rendre l'antenne. Merci à tous nos invités. Beaucoup d'informations de pédagogie ce soir au sujet des nanotechnologies.
On remercie également, évidemment, tous nos auditeurs, nos auditrices qui nous ont envoyé quand même ce soir de nombreuses questions sur le site tout au long de l'émission. Une fois de plus, Science Frisson a permis le débat. Beaucoup d'interactions ce soir, des échanges riches et passionnants. Nous n'hésiterons pas à reprendre ce débat une prochaine fois.
Voilà. Eh bien, avant de rendre l'antenne, je vais faire les petits rappels de fin d'émission. Donc, je vous rappelle le site de l'émission science-frisson.com. N'hésitez pas à venir le visiter. Vous y trouverez, une bibliographie d'ouvrages spécialisés sur le sujet. Vous trouverez également les références de tous les livres de nos invités que je vous encourage vivement à lire. Et donc à acheter. Hein. Et je vous conseille également les blogs de nos invités. Alors aujourd'hui, 5 invités, 5 blogs. Hein. Donc là, on a de la chance et je vous encourage à aller les visiter parce qu'ils sont très très bien faits. Enfin, je tenais à vous donner les références du site Nanotechnologie sans frontières. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient faire des dons, notamment de stylos, je vous encourage à soutenir cette initiative. Écoutez,
déjà des stylos, là, tout le monde...
Voilà, alors Jean Destone, tout le monde donne son stylo, merci.
John Termos, qui est président à Nanotechnologie sans frontières, on le rappelle.
Voilà, alors on va terminer en musique avec un petit groupe grenoblois, un petit groupe qui monte, Alain.
Bien sûr, Sophie, vous les avez découverts pour nous, oui, un petit groupe qui monte, ils ne sont pas encore estampillés Rance Inter, donc vous ne les entendrez pas tout de suite 28 fois par jour, mais ça viendra sûrement, faites-nous confiance. Ce soir, pour vous, les signes CEA qui vont vous interpréter un titre bien adapté à notre débat de ce soir.
On les accueille pour vous ce soir en direct et sans musique. Les signes CEA, tout le bonheur du monde.
On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. De nouvelles armes, de nouvelles bombes, révolutionnant notre quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, et qu'une start-up vous tende la main. De pouvoir maîtriser les ondes, et contrôler tous les humains. Je sais pas quelle puce on vous mettra, sous l'abdomen ou bien sous le bras, sur vos produits ou sur vos chats. Mais ne craignez rien pour votre vie privée. Elle ne sera pas mise en danger si vous avez rien à vous reprocher. Puisque pour votre sécurité, il vous faudra tout sacrifier. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Des nouvelles armes, des nouvelles bombes, révolutionnant notre quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, et qu'une start-up vous tende la main. De pouvoir maîtriser les ondes, et contrôler tous les humains. Tout un monde s'offre devant nous, des tas de gadgets plus ou moins fous, sûrement plein de puces au rendez-vous. Ça va complètement changer nos vies, anéantir l'autonomie, renforcer la technologie, pour le grand bonheur de l'industrie, qui se fait du fric sur nos vies. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. De nouvelles armes, de nouvelles bombes, révolutionnant notre quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, et qu'une start-up vous tende la main. De pouvoir maîtriser les ondes, et contrôler tous les humains. L'avenir s'annonce plein d'entrain, avec Giant et le sillon alpin. ITER, les JO, ce sera bien. Grenoble va devenir le paradis, plus qu'un modèle, une utopie. Il manquera plus que de la Sensi, et partout on parlera d'ici, cette étoile qui brille dans la nuit. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. De nouvelles armes, de nouvelles bombes, révolutionnant notre quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, et qu'une start-up vous tende la main. De pouvoir maîtriser les ondes, et contrôler tous les humains.
Peace and love.
Yes, I take. Spéciale dédicace à Michel Destot, député maire de Grenoble. À Michel Vauzel, président de la région PACA. À ITER, le grand soleil nucléaire. À Christophe Caténaire, maire de Fort-Calquier. À une croissance infinie dans un monde fini. À une candidature française aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018.
Pas le goût.
Plus vite, plus haut, plus fort. Et merci à Radio Zinzine, la radio taquine.
Eh bien, merci à vous. C'était le petit groupe Sinsea, le petit groupe qui monte, qui monte. Ce soir, à la réalisation, c'était Bernard Kouchner, assistant de réalisation Bernard-Henri Lévy. À la technique, c'était Bernard Thibault. Au nettoyage du studio, c'était Bernard Hinault, assisté de Bernard Lhermitte. Merci à vous, Paris.
Au revoir.